Bienvenue dans Moderne, le podcast du Marais Mood qui parle des tendances et de l'air du temps. Chaque semaine, sur le ton d'une conversation entre amis, Katia Barillo, rédactrice en chef du Marais Mood, le média de Paris Centre, décrypte les tendances, mode, food, beauté, bien-être, déco, etc. avec un spécialiste qui nous éclaire sur les grands courants de notre époque. Merci à notre sponsor Les Enfants Rouges. Cette agence immobilière est incontournable dans le Marais et Paris Centre avec ses bureaux dans les quartiers Bretagne, Place des Vosges, Oberkampf et Saint-Martin. Aujourd'hui dans Moderne, nous allons parler de l'orientation post-bac, mais aussi de ce nouveau bac dont nous avons du mal à saisir toutes les nuances. Et pour cela, nous recevons Dziminga Gomis-Cadas. Bonjour Dziminga, vous allez bien ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Alors Dziminga Gomis-Cadas est psychologue clinique. Dziminga Gomis-Cadas est psychologue clinicienne avec plus de 20 ans d'expérience auprès d'adolescents et de jeunes adultes en institutions spécialisées. Elle est aussi la fondatrice de S'Orienter, un service d'accompagnement et d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, même l'éducation est un lieu de tendance car la demande croissante de travailleurs qualifiés et l'accélération des changements technologiques oblige à être dans le coup des tendances lourdes. Celle, par exemple, de l'entrée dans l'éducation de la tech et l'entrée aussi du mot bienveillance. Car rappelez-vous ce qu'avait dit Jean-Michel Blanquer pour lancer sa première rentrée en septembre 2017. Il avait dit République, excellence, bienveillance, un mot très à la mode, très tendance, c'est le plus important pour cette nouvelle année et pour les années qui viennent. Alors, Dziminga, est-ce que vous pensez que la bienveillance existe dans l'éducation en France ?
Oui, enfin, pour moi, la bienveillance, c'est plus qu'un mot. C'est effectivement ce qui peut sous-tendre une relation éducative. À partir du moment où, effectivement, les enseignants, mais aussi tous les professionnels hein, qui gravitent autour des élèves sont engagés dans cet art d'accompagnement qui est la leur, c'est aussi la bienveillance qui peut soutenir en tous les cas leur action dans le quotidien. Et je parle de communauté éducative parce que ça touche à la fois aux enseignants, mais aussi au personnel qui sont chargés, aux assistants d'éducation, au personnel type conseil principal d'éducation, les infirmiers quand on en dispose. C'est vraiment toute la communauté éducative qui est appelée à cette bienveillance-là. et là, c'est l'éducation au sens large, c'est pas uniquement l'aspect enseignement disciplinaire, c'est vraiment... Donc en soi, oui, j'ai envie de dire qu'on est tous convoqués à cette bienveillance.
Bon, alors on va passer à ce bac hein, qui nous interroge énormément. Vous occupez d'orienter des élèves, des enfants, mais aussi des professionnels. Qu'est-ce qui a changé avec ce nouveau bac ?
Alors moi, je parlerai essentiellement du bac général,
oui,
quand même, parce que c'est ce sur quoi j'ai été davantage sollicitée. Donc, en effet, le niveau bac général, la principale caractéristique, c'est qu'il y a une suppression des filières. Il n'y a plus de filières dans le bac général.
Comme A, B, S, oui, celles qu'on a connues,
voilà,
en fait.
Celles qu'on a connues pour nos générations, pour les générations... Les dernières générations qui ont eu à passer effectivement le bac ancienne mouture, c'était les filières S, ES, L. Et donc, le nouveau bac a été instauré là et la première promotion à l'avoir validée est la promotion de cette année en 2021. Donc, il n'y a effectivement plus de filières, mais un parcours qui est organisé autour de spécialités que les élèves doivent choisir à partir de la classe, en seconde pour la classe de première. Donc, ils doivent effectivement faire un choix de spécialité. Donc, 3 pour le niveau première et ils n'en conservent que 2 pour le niveau terminal. Et le nouveau bac aussi instaure une part de contrôle continu, en plus des épreuves terminales qu'on avait effectivement dans l'ancien bac. Là, il instaure une part de contrôle continu.
Alors pourquoi, puisque il y avait déjà ça dans l'ancien bac, le contrôle continu, pourquoi ça a provoqué tant d'exaspération?
C'est-à-dire que le format du bac tel qu'on l'a connu était concentré sur des épreuves de fin d'année, des épreuves finales. Et donc, il y avait cette notion un petit peu de bachotage qui permettait à des élèves qui peut-être avaient pris le temps, j'ai envie de dire, avant de se mettre vraiment dans des dispositions d'examen, qui pouvaient, sur les dernières semaines, les derniers mois, être sur les modalités un petit peu de bachotage pour se présenter à l'examen final. Le fait d'instaurer une part grandissante de contrôle continu, c'est l'idée, effectivement, que le bac va être évalué tout au long de l'année. Or, là, avec ce nouveau bac, c'est non seulement l'année de terminale, mais c'est dès l'année de première que les résultats sont comptabilisés pour le bac. Alors qu'auparavant, il y avait effectivement en première le bac de, ce qu'on disait, le bac de français, les épreuves anticipées de français, mais qui se déroulaient en fin d'année. Là, j'ai envie de dire que les élèves, quand ils intègrent leur classe de première, les premiers résultats qui vont être comptabilisés pour leur bac, c'est dès la rentrée de première, les premières évaluations auront un poids dans le bac.
Waouh! Alors justement, faut-il avoir...
Ça permet d'éviter l'écueil du bachotage, mais ça, j'ai envie de dire que cette question de l'évaluation, elle a son importance pendant quasiment 2 ans, l'année de première et l'année de terminale, qui peut amener une certaine tension autour de la question de la notation et de l'évaluation.
Alors justement, après ça, il y a Parcoursup.
Oui.
Alors est-ce qu'il faut avoir peur de Parcoursup? D'abord, expliquez-nous ce que c'est que ce machin.
Je ne pense pas qu'il faille avoir peur de Parcoursup, tout simplement parce que Parcoursup, ça paraît un nom comme ça un petit peu... qui peut faire l'objet de beaucoup de fantasmes, mais en réalité, c'est juste une plateforme d'accès aux études supérieures. Et Parcoursup a pris la suite d'AFD, qui était effectivement la plateforme antérieure qui permettait l'accès aux études post-bac. Donc en soi, Parcoursup, c'est grosso modo un petit peu un passage obligé pour tout élève qui prétend à poursuivre des études
supérieures
après son bac. Mmh. Donc, c'est à la fois une formalité à laquelle il faut se soumettre, et en même temps, dans Parcoursup, les élèves doivent à la fois faire des vœux de formation, mais à partir d'une offre de formation qui est disponible, et leurs candidatures vont être étudiées à partir de différents critères, et c'est ça qui peut parfois être un petit peu anxiogène pour les élèves. Et puis c'est avant tout la question du choix. Qui dit choix dit avoir à se positionner et avoir à se déterminer. Et pour des grands adolescents, ça peut être effectivement une démarche qui n'est pas toujours simple et qui peut générer de l'anxiété.
Alors justement, avec ce nouveau procédé, vous le disiez tout à l'heure, de l'école... non pas de l'école, mais de ces examens, de cet examen en continu, est-ce qu'on n'a pas intérêt à être dans un bon lycée? Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est d'être dans un bon lycée et avoir des notes moyennes ou d'être dans un lycée moins coté avec de bonnes notes?
Il n'y a pas de réponse à cette question parce que, encore une fois, dans Parcoursup, vous avez tout type de formations. Vous avez des formations universitaires et jusqu'à preuve du contraire, l'université n'a pas un accès sélectif. Toute personne qui désire effectivement de s'inscrire en licence peut y prétendre pour peu qu'il y ait suffisamment de places offertes dans la dite formation. Donc la question effectivement des notes et des spécialités, elle va plus entrer en ligne de compte pour les formations dites sélectives qui couvrent j'ai envie de dire des BTS en passant par les IUT jusqu'aux classes préparatoires aux grandes écoles. Donc à partir du moment où il y a une sélectivité qui est liée d'une part à la formation en tant que telle, comme pour les formations sélectives, ou une sélectivité qui est liée à des filières dites en tension, c'est là où effectivement la question du dossier scolaire et des résultats peuvent entrer en ligne de compte.
Qu'est-ce qui peut nous aider, vous qui êtes une spécialiste? Est-ce que les enfants qui sont dans les lycées professionnels sont un peu... leurs parents s'intéressent moins à leur scolarité, donc du coup, ils ont moins la chance d'être aidés par la suite et d'aller rencontrer quelqu'un qui pourrait les aider à faire des choix pour leur scolarité?
Je pense que... lycéens, comme leurs parents, qu'ils soient dans des filières professionnelles, technologiques ou finalement dans l'enseignement général, sont tout le temps concernés par leur scolarité et la question de leur devenir surtout. Simplement, en filière professionnelle, j'ai envie de dire que le débouché naturel de la filière professionnelle c'est plutôt des filières pour ceux qui veulent poursuivre leurs études type BTS. Et il y a une correspondance assez proche entre le type de bac qu'ils ont suivi et la filière de BTS qui correspond. Donc la question du choix, elle est déjà plus ou moins aiguillée. Qu'un élève qui effectivement... a suivi un enseignement général, les choix sont plus ouverts. Qui dit choix plus ouvert dit, effectivement, la question de faire le bon choix, de s'orienter convenablement. Donc c'est plus large. Ça peut paraître paradoxal, mais plus on a de choix et plus il peut y avoir de risques de faire le mauvais choix. Donc ça suscite davantage d'interrogations, j'ai envie de dire, peut-être chez ses élèves et chez ses parents, que pour des élèves qui ont déjà, pour les lycéens qui sont dans l'enseignement professionnel, qui ont fait leur choix finalement en fin de troisième. L'aiguillage se fait dès la fin de troisième vers un bac pro, mettons, dans le domaine du commerce. Et quand on a intégré cette voie-là... c'est un peu une continuité après le bac, si on est dans une poursuite d'études.
Oui.
En revanche, un élève qui en fin de troisième est allé effectivement dans un lycée général, il s'est destiné davantage effectivement à suivre un parcours de formation au-delà du bac, suivre des études supérieures, plutôt des études longues. Et là, la question, effectivement, elle se pose en fin de seconde. Elle va se poser, effectivement, en terminale sur est-ce que je vais à l'université, est-ce que je vais en BTS, est-ce que je fais une prépa, si je vais à l'université, quelles études je vais suivre. Donc, c'est pas tant question d'intérêt ou de capacité à aiguiller, en tout cas par rapport à cette question, ils seraient peut-être moins intéressés sur des questions scolaires, mais je dirais que c'est ça revient toujours à cette question de choix. Plus les options sont ouvertes, et plus je me questionne sur la voie que je dois emprunter. Oui. Donc, de fait, il y a beaucoup plus les élèves qui sont dans les filières générales qui sont amenés à se questionner. Et puis, la réforme aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de parents qui ont eu, qui ont été titulaires de l'ancien bac, qui ont suivi des filières d'études supérieures, n'ont plus tout à fait les mêmes grilles de lecture puisque le système a changé.
Oui, les cartes sont rebattues.
Voilà, et donc il y a davantage de questionnements parce qu'on essaie de trouver des correspondances par rapport à un système qu'on a suivi, dont on est issu, et aujourd'hui c'est plus tout à fait exactement le même système. Donc ça suscite des interrogations. Pour certains, oui, il part quand même un petit peu de ses réalités. Il y a une notion de calendrier, donc il y a des choses à faire à échéance.
Alors dites-nous, racontez-nous, quelles sont ces choses qu'il faut faire et à quelles échéances?
Alors la campagne Parcoursup, généralement, elle s'ouvre en janvier, avec la possibilité à partir de décembre-janvier de prendre connaissance de l'offre de formation. Et donc s'ouvre une période d'inscription des élèves à partir de janvier jusqu'à mars-avril sont amenés à formuler leur jeu de formation. Ils ont jusqu'en avril pour les valider. Et donc c'est une période qui correspond aussi à la période des salons, les salons d'orientation, qui permettent à la fois de prendre connaissance de l'offre de formation sur Parcoursup, mais aussi de pouvoir se rendre dans des salons. Maintenant, on va pouvoir le faire en présentiel à nouveau, on souhaite, pour rencontrer les instituts de formation et pouvoir avoir un petit peu une idée en direct de leur programme, des contenus de formation, de débouchés, mais aussi des modalités d'accès à ces formations. Voilà.
Ça, c'est absolument indispensable. Vous pensez que c'est indispensable? Vous pensez que ça aide véritablement à faire un choix efficace?
Quoi donc?
D'aller dans des salons d'étudiants, d'aller dans à la rencontre de ces professionnels de l'éducation?
C'est une possibilité. Mais je disais que cette période-là, en tous les cas, la période d'inscription sur Parcoursup correspond à la période où se tiennent les salons. Donc, j'ai envie de dire qu'entre janvier et avril, les élèves, leurs parents ont la possibilité de... Voilà, ils ont accès à l'information sur cette période-là et c'est à partir de ces informations-là qu'ils vont avoir à se positionner et à faire leur choix. Et puis, il y a l'accompagnement qui est proposé quand même dans les établissements scolaires par les professeurs, il y a parfois certains établissements qui font appel aux conseillers d'orientation. Donc, tout se fait à peu près sur la même période parce qu'en effet, au-delà d'une certaine date, on n'a plus forcément la possibilité de formuler des jeux sur Parcoursup. Donc, il y a, j'ai envie de dire, l'année terminale, les deux enjeux de l'année terminale, c'est à la fois le bac et Parcoursup.
Alors, justement, qui peut nous aider à faire le bon choix pour le bac et c'est-à-dire, je parle là des spécialités.
Les spécialités, la question du choix, elle est importante à être mise en lien avec le projet d'études post-bac, encore une fois. Et là, j'ai envie de dire que en soi, il y a pas vraiment, c'est pas une grande nouveauté. C'est-à-dire qu'un élève qui destine à des études scientifiques, il a tout intérêt, effectivement, à prendre des spécialités correspondantes. Donc, c'est le choix de spécialité doit être en lien avec le projet post-bac. pour des élèves qui n'ont pas d'idée, et c'est quand même
la majorité,
il y en a beaucoup qui n'ont effectivement pas d'idée de ce qu'ils souhaitent faire. L'idée, c'est de pouvoir faire des choix de spécialité dans lesquels ils ont
une appétence.
Une appétence, mais aussi des chances quand même de réussite, et qui puissent leur permettre d'avoir les choix les plus ouverts. Parce que en effet, y a les choix de spécialité colorent quand même des profils, même si y a pas de forcément de combinaison imposée. En fonction des choix de spécialité, on verra quand même que certains ont un profil plutôt littéraire, d'autres ont un profil plutôt scientifique. On peut colorer son profil par le choix de spécialité, et ce qui peut effectivement déterminer les poursuites d'études à la suite. En revanche, faire des choix de spécialité uniquement sur la question de « je vais prendre des spécialités scientifiques parce que je peux poursuivre des études scientifiques, mais qu'on n'obtient pas de bons résultats », c'est pas un calcul qui sera... En tout cas, ce n'est pas une stratégie qui sera efficiente, parce que c'est être sûr quand même des choix qui soient cohérents, en effet, qui puissent correspondre aux appétences, si possible en lien direct avec un projet d'études, mais dans lequel on sait qu'on a des chances de réussite également.
Oui. Alors justement, après ça, c'est la question des filières. Par exemple, avant, on disait que la sociologie était une voie de garage. Est-ce que... Par exemple, c'est toujours le cas. Quelles sont les filières où on sent des débouchés, on sent des possibilités, des possibles multiples pour les enfants de la génération, des générations qui sont nées entre les années 2000, qui sont nées après 2000
Je ne sais pas qui pourrait considérer que la sociologie... était une voie de garage, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un contexte de crise, quoi qu'il en soit, hein, on n'en est pas tout à fait encore sorti, et que la question des diplômes aujourd'hui est d'autant plus importante, parce que le diplôme ne signifie pas forcément une garantie d'emploi. Donc, les gens ont tendance à effectivement se dire, il faut que je choisisse la bonne filière pour me garantir un emploi. Or, chaque filière a sa spécificité. Les filières universitaires, quand on intègre l'université, il faut être conscient qu'on part sur un parcours d'études long. Une personne qui intègre l'université qui aspire effectivement à avoir un débouché professionnel au bout de 3 ans, c'est peut-être pas l'université qu'il faut prioriser dans ce cas-là, parce que c'est pas le format d'études. 3 ans d'université, ça reste, les 3 premières années de licence, ça reste de l'enseignement général, et la spécialisation se fait qu'après. En revanche, une personne qui choisit de suivre un BTS, le format d'études est tel que effectivement, à la fin du BTS, on peut se garantir des débouchés parce que c'est conçu comme tel. C'est j'ai envie de dire que le débouché naturel pour un BTS, c'est la poursuite d'études, c'est pas forcément ce qu'on vise après un BTS.
Oui. Oui, il y a un parcours de A à Z. Enfin, voilà, le chemin est plus tracé, vous voulez dire.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des formations. Une formation universitaire, ça donne un socle de connaissances générales. Les 3 premières années donnent un socle de connaissances générales. C'est qu'après qu'on se spécialise. La sociologie, faire une licence de sociologie... En soi, si on ne poursuit pas derrière vers un master, si on n'a pas vocation de faire de la recherche, ça va être compliqué effectivement de se dire qu'au bout avec une licence de sociologie, d'anglais, je peux décrocher un premier emploi dans ce domaine-là. Donc c'est pas qu'en soi ce soit une voie de garage, c'est plus se dire que quand on intègre l'université, il faut être conscient que les débouchés se feront probablement après un parcours de 5 ans d'études minimum. Alors, on s'engage sur des études longues, alors que les BTS, les IUT, ce sont plutôt des filières de formation courte et qui peuvent déboucher à l'issue de ces 2 ou 3 ans maintenant pour les IUT vers effectivement un accès à la vie active.
Revenons à la question du bac. Qu'est-ce que vous pensez, vous, quel est votre avis sur la question de l'harmonisation des notes entre lycées? On sait que bon, dans Paris Centre, dans le centre de Paris, il y a de bons lycées, que les lycées sont plutôt, le niveau est plutôt homogène. Mais quand on est noté au bac, comment est-ce qu'il existe toujours des lycées qui notent beaucoup plus sévèrement que d'autres au niveau, au moment de l'examen?
L'harmonisation des notes, c'est une réponse, en tout cas c'est une mesure qui répond à cette question du contrôle continu, puisque en effet, les épreuves terminales, ce sont des épreuves nationales. Le contrôle continu, ce sont des évaluations qui sont organisées dans les établissements. Et donc, l'idée de cette harmonisation des notes, c'était pour tenter, d'éviter l'écueil de, justement, ce que vous soulevez, des lycées qui noteraient trop sévèrement et d'autres qui noteraient de manière beaucoup plus large. Donc, c'est une réponse. Après, la réalité, c'est que les exigences, enfin, la question de la notation, elle est aussi liée aux exigences académiques. Et là, en effet, les exigences ne sont pas toujours les mêmes suivant les établissements. Après, les commissions Parcoursup, dans les filières sélectives, la plupart ont quand même une habitude d'analyse des dossiers. Et dans le dossier Parcoursup, il y a effectivement figure les résultats, les notes des élèves, figure leur lycée d'origine malgré tout, et figure aussi leur classement dans la classe,
oui,
et le niveau de la classe.
Oui.
Donc il y a quand même différents critères. Quoique le lycée d'origine, j'ai un doute. Je ne sais pas justement si ça figure véritablement, mais toujours est-il que on a quand même différents critères qui permettent d'évaluer et d'apprécier une moyenne. Une moyenne en soi, c'est un chiffre brut, n'a pas tellement d'importance, mais c'est toujours ramené au niveau d'exigence du lycée, ramené au niveau d'une classe. Et en soi, un bon élève pourra toujours être distingué. Parce qu'en effet, on est sur des formations très sélectives. Les premières classes resteront des premières classes, a fortiori qui sont issues d'une classe déjà de très bon niveau.
Oui, alors il y a des accidents de parcours, il y a des enfants qui ont eu 18 au bac dans un très bon établissement et qui ont beaucoup de mal à trouver des places dans les écoles qu'ils veulent. J'ai entendu beaucoup d'échos de cette sorte. Est-ce que c'est vraiment un accident, c'est un hasard? Vous vous dites que non, semble-t-il.
18 au bac, ça dépend de... Enfin, si c'est 18 sur les épreuves terminales, c'est un 18.
Oui, ça paraît étonnant.
Parce que, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, 18 au bac.
Oui, 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 pardon, 18 de moyenne. Oui, oui, c'est oui, oui.
D'accord, c'est, oui. 18 de moyenne. C'est pour ça que je dis un dossier, il est étudié dans son ensemble. c'est effectivement le contrôle continu, les moyennes de bulletin, mais ce sont quand même des épreuves cardinales qui sont des épreuves nationales, comme le français, comme la philo. Et là, ça permet de pondérer, ça peut permettre de pondérer aussi un dossier. Après, il est vrai qu'il a été repéré quand même une certaine inflation des notes. Justement,
ah oui.
probablement, probablement pour essayer de gommer cet effet Parcoursup et cet effet lycée. Mais en réalité, ça peut être trompeur de. Parce que ça peut amener finalement avec l'élévation du niveau des notes. À ne plus. Tout le monde est bon.
Ouais.
Voilà. Tout le monde est excellent. Donc, ce qui pouvait. Un 16 qui pouvait se distinguer il y a quelques années, aujourd'hui, le 16 vaut 10.
Ouais. Un 16 vaut 10.
Non, mais enfin.
Admettons.
Je caricature. Mm. Et c'est pour dire que si on part du principe qu'il y a une inflation des notes, il y a beaucoup plus d'élèves aujourd'hui qui ont de très hautes moyennes comparativement à il y a quelques années. Et donc ces élèves, ayant de bonnes moyennes, aspirent aux meilleures formations. Et donc il y a beaucoup plus effectivement de candidats dans ces formations-là. Et la sélection devient beaucoup plus drastique, du coup.
c'est le serpent qui se mord la queue.
Ce sont des effets, mais c'est difficile de les mesurer quand même, parce qu'on a quand même pas beaucoup de recul là. Le nouveau bac, la première promotion, c'est juin 2021.
Ouais. Et effectivement, ils ont eu des bonnes notes. Certains ont crié. Au don du bac, certains ont dit, mais on leur a donné le bac. Mais justement, il s'agit de cette fameuse bienveillance dont parlait Jean-Michel Blanquer. Et peut-être aussi, on peut dire qu'avant, les professeurs étaient trop sévères. On pourrait dire ça aussi.
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que dire qu'on leur a donné le bac, l'élève qui a obtenu 16, est-ce qu'il est moins méritant aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant? Je ne sais pas. Toujours est-il que cette génération... Je ne sais pas si il s'agit véritablement de comparer des générations. C'est ça que j'ai dit, vraiment, on n'a pas beaucoup de recul. Cette génération-là, qui a passé le bac en 2021... C'est la génération de 2003 qui a connu la réforme des rythmes scolaires, qui a connu la réforme du brevet des collèges, qui a connu le nouveau bac, qui a dû traverser la crise sanitaire et a eu à composer avec de l'enseignement hybride, du contrôle continu, une partie d'épreuves en première, type épreuves, comment on les appelait, les E3C. Donc, bon, ils essuient quand même très souvent les plâtres. Et donc, effectivement, considérer qu'à six circonstances un petit peu exceptionnelles, il faille envisager peut-être d'autres modalités de validation de connaissances, on y a été un petit peu contraint. On y a été un petit peu contraint. Là, ce qui serait intéressant de savoir, et là, je n'ai pas assez de recul, moi, pour pouvoir le dire, c'est le devenir de ces bacheliers 2021. Dans leur accès, justement, aux études post-bac et aux filières sélectives pour les uns et pour les autres. Mais.
Il n'y a pas de raison.
On leur a donné. Une fois qu'on leur a donné, qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi?
Que vont-ils en faire? Alors justement, qui peut nous aider, nous, les parents, les élèves, à faire des bons choix post-bac? Qu'est-ce qui peut nous aider? Y a-t-il des ouvrages à lire? Y a-t-il des spécialistes à aller voir? Et après, vous allez nous expliquer ce que vous faites dans S'orienter pour qu'on ait une idée.
Des bons choix, Je ne saurais pas répondre à cette question parce que le bon choix pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Encore une fois, je disais, c'est les choix doivent reposer à la fois sur effectivement les appétences, sur le potentiel et sur comment effectivement ces choix sont en lien avec un projet d'études, un projet professionnel. Ce qui est important, c'est déjà se connaître, savoir un petit peu dans quoi on est à l'aise, s'appuyer sur en premier lieu effectivement son entourage, la famille, s'appuyer sur les enseignants. Je trouve que ils sont quand même d'une aide précieuse pour peu qu'on ait encore des espaces d'échange et de dialogue avec les équipes pédagogiques. Ça a été très difficile hein, sur ces deux ans là que nous avons passé parce que effectivement on était tous à distance et puis les conseils d'orientation quand on en trouve moi l'idée de s'orienter j'ai voulu la mettre en œuvre pour pouvoir être un lieu un peu tiers, un lieu un peu neutre qui puisse être le ressource pour pouvoir aiguiller, entendre les questionnements des élèves, de leurs parents, pouvoir les aider à éclairer un petit peu leurs choix en ayant les bonnes informations. En sachant que les établissements délivrent des formations. Il y a très régulièrement des réunions d'information justement autour de l'orientation, des semaines de l'orientation qui sont organisées. Et l'idée de s'orienter, c'est de pouvoir aider les parents comme leurs enfants à s'approprier cette information. Qu'est-ce que je peux en faire pour moi-même à partir de, au-delà du calendrier, au-delà des aspects de procédure d'inscription, de délai, de constituer le dossier, rédiger son projet de formation motivé, quel sens ça peut prendre pour moi et comment j'essaie de trouver une voie qui me correspondra et dans laquelle je pourrais effectivement être dans les meilleures conditions de réussite et d'épanouissement. C'est ça qui m'importe. Et j'ai vraiment à cœur que chacun puisse trouver son parcours. Et des parcours d'excellence, il y en a dans toutes les filières, quoi qu'on en dise. Bien qu'il y ait toujours un petit peu cette idée que, il y a de bonnes formations, ou il pourrait y avoir des filières qui vaillent mieux que d'autres. Ce qui importe, c'est effectivement d'être à la place qui nous correspond. Et si ça nous correspond, la réussite sera au rendez-vous.
Mais bien sûr, on voit à notre époque être DJ, c'était une catastrophe. Et maintenant, on voit comment on s'en créait des métiers autour de la musique et des métiers comme celui-là. Avant, être pâtissier, être cuisinier, c'était pour les très mauvais en maths et en français. Et on voit qu'il y a de sublimes réussites.
Et puis, la plupart des métiers de demain n'existent pas encore.
Oui.
C'est-à-dire que il y a aussi une évolution et ce qui est important, c'est effectivement que les enfants puissent, les enfants, grands adolescents, bientôt jeunes adultes, pouvoir faire des choix avec le plus de sérénité possible. C'est pas facile ce qu'on leur demande. On
Merci.
Leur demande de savoir, alors que nous-mêmes adultes, nous ne savons pas. Et on a bien vu ces deux années-là que nous venons de passer, que, y compris de hauts responsables politiques, ne savaient pas toujours. Donc, c'est bienveillance, c'est humilité. Il y a des parcours pour tout le monde. Tout le monde ne sera pas, tout le monde ne peut pas prétendre aux filières les plus prestigieuses. Et quand bien même, on peut tout à fait faire un joli parcours. Le tout, c'est de choisir là où je peux
m'épanouir.
Je peux m'épanouir et trouver ma propre excellence aussi.
Merci. Merci. C'est sur ces mots d'Iminga Gomis-Cadas que nous allons nous quitter. Je vous rappelle qui est Iminga. Elle est psychologue clinicienne avec plus de 20 ans d'expérience auprès d'adolescents et de jeunes adultes en institution spécialisée. Elle est aussi fondatrice de S'Orienter, un service d'accompagnement à l'orientation scolaire et professionnelle. On vous trouve où? Où est-ce que c'est S'Orienter? Ça s'écrit en un seul mot, il n'y a pas d'apostrophe, je crois.
Donc, pour me joindre, vous pouvez passer par le site s'orienter.net où vous avez un descriptif des différentes prestations qui sont proposées et un petit peu l'état, l'approche qui est la nôtre.
Merci beaucoup. À très bientôt, Dominga.
Au revoir.
Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, à mettre un commentaire aux 5 étoiles, à suivre le Marais Mood sur Instagram et à partager l'épisode en story. Vous pouvez aussi découvrir les épisodes déjà en ligne et parler de Moderne autour de vous. C'était Katia Barillo, fondatrice de Moderne, le podcast du site lemaraismood.fr avec le soutien de l'agence immobilière des Enfants Rouges.